Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 23 septembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Nucléaire, l'Iran souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un accord sans clore le dossier des garanties. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, après le discours à la 77e Assemblée générale des Nations unies, le président Raïsi quitte New York pour Téhéran. L'ONU devrait agir pour toutes les nations, pas seulement pour les puissances, déclaration du président Raïsi à l'adresse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis la poursuite de la diplomatie nucléaire active de Téhéran à New York, Borrelli, le négociateur en chef iranien, rencontre des représentants des Pays-Bas et de l'Union européenne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Après le discours à la 77e Assemblée générale des Nations unies, le président Raïsi quitte New York pour Téhéran. Le président Raïsi, qui s'était rendu à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies, après avoir prononcé un discours à la tribune de cette réunion et organisé d'autres programmes, notamment des rencontres avec les chefs de certains pays présents au rendez-vous, quitte le vendredi hors de Téhéran, New York et regagne Téhéran. Ebrahim Raïsi, après avoir participé et pris la parole à la 77e Assemblée générale des Nations unies et son intervention à une conférence sur les évolutions éducatives à l'UNESCO et ses rencontres avec des chefs religieux, des spécialistes et experts américains en politique étrangère, vient de quitter New York pour Téhéran. Il y a quelques heures, ce vendredi 23 septembre, hors de Téhéran. Il a également reçu de hauts responsables des médias américains et a eu des échanges avec la diaspora iranienne aux États-Unis. À cela s'ajoute une conférence de presse et des rencontres avec plusieurs homologues et autorités politiques de haut rang de divers pays en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Au cours de ce déplacement, le président a rencontré le président français Emmanuel Macron, le président bolivien, le premier ministre pakistanais, le premier ministre irakien, le président suisse, le premier ministre libanais, le premier ministre japonais, le président finlandais, le président serbe, le premier ministre arménien, le président zimbabwéen et le secrétaire général des Nations unies. La visite du président Raïsi à New York s'inscrit dans la poursuite des efforts visant à réaliser, selon ses mots, un ordre international juste axé sur le multilatéralisme économique. L'ONU devrait agir pour toutes les nations, pas seulement pour les puissances. Le président Raïsi a eu une rencontre à New York avec Antonio Guterres, tout en mettant en valeur le rôle de l'ONU, a demandé aux Nations unies d'être le représentant de toutes les nations du monde, plutôt que celui des grandes puissances. Le président Raïssi, lors d'une rencontre avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies jeudi soir, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a déclaré que les Nations Unies devraient vraiment être une organisation pour les nations et non celle des puissances. Soulignant les crises en cours dans certains pays de la région, Raïssi a noté que la résolution de chacun d'eux réside dans la formation d'un dialogue national sans aucune intervention étrangère. Il est nécessaire que l'ONU joue un rôle plus sérieux dans la lutte contre l'unilatéralisme, a insisté Raïssi. L'Iran soutient l'établissement d'un dialogue régional pour résoudre les problèmes bilatéraux entre les États de la région, a-t-il également noté. La République islamique d'Iran est l'ami de ses voisins dans les moments difficiles, a-t-il dit, tout en évoquant les mesures humanitaires de l'Iran pour accueillir les réfugiés afghans et aussi sa lutte contre le terrorisme qui était un grand danger pour la région et le monde. Alors que l'Iran a fait preuve de sérieux dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis et l'OTAN ont apporté la guerre, la destruction, l'occupation et le massacre dans la région, a-t-il déploré. Pour sa part, Guterres a salué les mesures continues de l'Iran dans la réception des réfugiés afghans, ainsi que son rôle dans le maintien de la trêve au Yémen. Décrivant le retrait américain de l'accord sur le nucléaire de 2015 comme non constructif, il a regretté que les sanctions anti-iraniennes n'étaient pas assouplies au milieu de la pandémie du coronavirus. Il a exprimé le soutien de l'ONU à l'initiative iranienne sur la création du dialogue régional. Confirmant les positions de la République islamique en ce qui concerne les droits de l'homme, le chef de l'ONU a déclaré que les droits de l'homme ne devraient pas être utilisés comme moyen et excuse pour mener la guerre contre les pays. Poursuite de la diplomatie nucléaire active à New York, Borrelli a rencontré des représentants des Pays-Bas et de l'Union européenne. Le négociateur en chef de la République islamique a rencontré les représentants des Pays-Bas et de l'Union européenne dans le cadre de la poursuite des activités diplomatiques pour relancer l'accord nucléaire. Selon le correspondant de l'IRNA, Ali Borrelli-Kani, a annoncé lors de ces réunions la détermination sérieuse de l'Iran à poursuivre des engagements durables et à respecter les obligations dans le cadre de l'accord PGAC, Plan Global d'Action Conjoint sur le nucléaire de 2015. Ces réunions se sont tenues jeudi en marge du 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le négociateur en chef de la diplomatie iranienne a également rencontré des responsables du ministère des Affaires étrangères du Qatar et de la Suisse et a déclaré lors de ces rencontres la logique claire de l'Iran est la nécessité de fournir des engagements durables dans le processus de négociation et le respect des engagements par la partie occidentale. Enfin, les deux Iraniens détenus aux États-Unis sont dans des conditions défavorables. Deux ressortissants iraniens détenus aux États-Unis vivent dans des conditions défavorables depuis un an, a déclaré Kazem Gharibabadi, secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme de l'Iran. Lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur de Suisse à Téhéran, Kazem Gharibabadi a déclaré que les deux Iraniens qui étaient en garde à vue depuis l'année dernière ne sont pas en bon état. Gharibabadi a déclaré « L'un des deux est Reza Sarhangpour, vivant au Canada, qui a été arrêté par les gardes frontières américains. Il est en résidence surveillée et doit payer un lancement lourd pour la poursuite de l'arrestation ». Il a dit que l'accès de Sarhangpour aux services de santé avait été coupé et que son état de santé était inquiétant. Dans les cas où il a reçu des services de santé limités, il a payé pour eux. Le responsable iranien a critiqué les doubles normes des droits de l'homme de certains pays occidentaux et a déclaré que l'utilisation instrumentale des questions des droits de l'homme, qui était souvent adoptée par les États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, était répréhensible et contrairement aux idéaux humains. Certains pays européens abritent même des terroristes dont les mains sont tachées du sang de plus de 17 000 Iraniens innocents et ils ne condamnent pas les actions terroristes contre les citoyens iraniens, ce qui indique leur approche à double standard des droits de l'homme, a-t-il conclu. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. We'll be right back. nucléaire, l'Iran souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un accord sans clore le dossier des garanties. L'Iran souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un accord sans clore le dossier des garanties dressé partiellement et partiellement par les pays occidentaux et que l'Iran est prêt à régler ces questions et dissiper les ambiguïtés en même temps que l'accord nucléaire. Le fait que les pays occidentaux, à leur tête, les États-Unis, refusent d'accepter cela est la preuve qu'ils veulent utiliser cette question comme levier de pression contre l'Iran, ce que nous n'accepterons point, a déclaré le président à la presse à New York. Au cinquième jour de son déplacement à New York, pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Raïssi a tenu deux réunions avec des agents de presse jeudi matin à New York et a répondu aux questions des journalistes sur divers sujets. Il s'est adressé aux hauts responsables des médias américains lors de l'une des réunions tout en tenant une conférence de presse avec la participation de journalistes iraniens et étrangers plus tard dans la journée. Raïssi a souligné que la politique de la République islamique d'Iran est représentée dans son slogan, à savoir « ni l'Est, ni l'Ouest », ce qui veut dire que nous ne nous permettons à personne de nous imposer, dixit, sa domination, et pour notre part, nous ne cherchons jamais à imposer notre domination sur les autres. Le président Raïssi a poursuivi, étant donné que la politique étrangère de l'Iran était axée dans le passé sur les relations avec les pays occidentaux, aujourd'hui, le gouvernement est convaincu, après l'échec dans ses relations avec la partie occidentale, à trouver l'équilibre dans la politique étrangère iranienne. C'est pourquoi le niveau des relations iraniennes avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres pays de l'Est a connu des évolutions et s'est amélioré. L'Iran souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un accord sans clore le dossier des garanties dressées par les pays occidentaux. L'Iran est prêt à régler ces questions restées en suspens en même temps que l'accord en agonie sur le nucléaire de 2015 abandonné par les États-Unis. Pour le président Raïssi, le fait que les pays occidentaux, dont notamment les États-Unis, refusent de faire preuve du réalisme et d'agir d'une manière productive, montre bien qu'ils veulent utiliser les questions en suspens comme un levier d'oppression contre l'Iran, ce que nous ne tolérons jamais, a-t-il insisté. Répondant à une question sur la position de Téhéran concernant le régime sioniste et la solution à la question palestinienne, Raïssi a déclaré « Le peuple palestinien de différentes religions a vécu sur sa terre ancestrale pendant des milliers d'années, mais leurs maisons sont occupées depuis 70 ans et ils sont déplacés dans leur propre territoire. » Nous assistons à un Gaza sous blocus depuis de longues années où les Palestiniens vivent en effet dans une grande prison à ciel ouvert. La solution à ce problème n'est pas des accords comme Camp David, Sharm el-Sheikh ou Oslo, car ces accords n'ont jamais pu et ne pourront pas résoudre le problème des habitants historiques de cette terre et défendre leurs droits. Il a noté que la solution réside dans la proposition que la République islamique a déjà émise et qui a été enregistrée au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que document. Cette proposition est tout à fait compatible avec les revendications des pays occidentaux à soutenir la démocratie, a-t-il dit. La tenue d'élections libres, avec la participation de tous les Palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, conduira à la mise en place d'un gouvernement capable de résoudre les problèmes des Palestiniens et de garantir leurs droits, a-t-il martelé. Il a également déclaré que s'appuyer sur l'opinion et la volonté du peuple pourrait résoudre les problèmes d'autres pays de la région, tels que le Yémen, la Syrie et l'Afghanistan. en réponse à une question sur la capacité de l'Iran à servir de médiateur entre les parties en conflit et à mettre fin à la guerre en Ukraine, Raïssi a déclaré que l'Iran était contre tout type de guerre et de conflit, compte tenu de son expérience amère dans la guerre imposée qui a duré 8 ans. Nous utiliserons tout notre pouvoir et toutes nos relations pour mettre fin à ce conflit, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que la guerre ne peut pas régler les différends, car les problèmes doivent être résolus par le dialogue. En réponse à une question sur la raison pour laquelle il tenait une photo du haut commandant antiterroriste iranien, le général Rossem Soleimani, lors de son discours à la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Raïssi a déclaré que l'assassinat de ce haut commandant était en fait l'assassinat d'un héros de la lutte contre le terrorisme. S'attardant sur le fait que les Américains ont créé eux-mêmes le groupe terroriste Daesh dans la région, le président iranien a indiqué que ce n'est pas lui qui le dit. Les Américains l'ont reconnu eux-mêmes lors de leurs débats électoraux. Il a rappelé que l'assassinat du très haut général iranien a été perpétré par les Américains alors qu'il était l'invité officiel des autorités irakiennes à Bagdad. Pointant la responsabilité directe de Trump dans ce lâche assassinat, Raïssi se demande « N'est-ce pas un exemple clair du terrorisme d'État ?» La République islamique d'Iran, a-t-il affirmé, poursuivra sérieusement le procès des auteurs et des commanditaires de ce crime, car, en l'absence d'un tel procès, il n'y aura aucune garantie que d'autres militants de justice et combattants antiterroristes pourraient être en sécurité sur leur chemin de la lutte contre le terrorisme.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour le débat. Aujourd'hui, un sujet, cette semaine en particulier, New York, l'ONU. Monsieur Raïssi, le président de l'Iran, est parti donc à New York pour sa première réunion à l'ONU. Il va également faire son premier speech. Des rencontres en aparté ont été prévues également, notamment la rencontre avec Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Macron lui-même doit rencontrer Biden après son rendez-vous avec Monsieur Raïssi. Beaucoup de choses se passent à l'heure actuelle dans le monde, aux alentours du Moyen-Orient, en Eurasie, en Asie, mais également en Europe. On le sait déjà, l'Ukraine est en tension, Taïwan est en tension. On ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Est-ce que la Russie est en train de perdre du terrain? Est-ce que c'est l'OTAN et ses alliés qui sont en train de gagner? Tout ce qu'on sait, c'est que la Chine officiellement s'est impliquée avec la Russie concernant cette tension en Ukraine, cette guerre, ce conflit en Ukraine. L'Iran a signé depuis ces 2 dernières années en particulier énormément d'accords entre la Russie et la Chine. Il y a eu des réunions notamment avec l'OCS et les Iraniens vont de plus en plus vers l'Asie et vers la Russie parce que tout simplement les négociations de Vienne peinent à finir. L'Iran demande des faits réels, demande à ce que les promesses soient respectées et donc des garanties, mais rien n'arrive pour l'instant. Donc les négociations étant complètement en berne. Que va faire l'Iran? Que va se passer pour l'Europe avec le problème d'énergie? 2 invités comme veut le débat. Monsieur Bernard Cornu, donc expert des questions politiques. Bonjour monsieur. Ravi de vous avoir sur le plateau de manière par le biais de Skype. Et monsieur, le deuxième invité étant monsieur Luc Michel, géopoliticien. Bonjour monsieur Luc Michel.
Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Je salue votre équipe. Donc, et monsieur Cornu, bien entendu.
C'est un plaisir de vous avoir tous les deux sur notre plateau, même si c'est virtuel. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est le sujet de la semaine, j'ai envie de dire. Réunion avec l'ONU à New York, premier voyage de monsieur Raïssi également, premier speech également devant cette assemblée. Il y a eu des rencontres, notamment, j'ai envie de citer la rencontre entre M. Raisi et M. Emmanuel Macron, tous deux présidents de la France et de l'Iran. Monsieur Cornu, avez-vous envie de dire quelque chose par rapport à cette rencontre et son importance ?
Oui, évidemment, c'est une rencontre très importante, annuelle. Beaucoup de chefs d'État sont là. J'ai entendu une grande partie du discours de M. Macron. Évidemment, il a critiqué l'offensive russe en Ukraine très fortement, mais il a surtout insisté sur la nécessité de résoudre les conflits par la diplomatie, qu'il s'y engageait fortement, qu'il continuerait à s'y engager fortement. Donc c'est un signe positif que les négociations continuent, celles menées d'une part par la Turquie et celles qui avaient été tentées par les Européens, mais qui sans doute continuent en coulisses et peut-être même en coordination avec la Turquie, qui est très avancée et respectée sur ce sujet par les deux parties. Voilà, donc il faut espérer d'une part que la diplomatie continue, arrive à résoudre tous les conflits en cours, et ils sont nombreux, en Syrie, en Ukraine, en Afrique, dans plusieurs pays, et en Libye aussi, il n'y a pas de stabilité, il y a encore des oppositions entre les grandes puissances. Mais donc aussi, ceci pose, et plusieurs pays l'ont posé, et depuis longtemps, ceci pose le problème de l'Organisation des Nations Unies, de la Charte de 1945, qui devrait absolument être réformée pour qu'elle soit plus juste, pour qu'elle donne plus de parole et de poids aux autres pays en dehors des cinq membres permanents qui, eux, se protègent parce qu'ils sont à l'abri, par l'impunité, par leur droit de veto sur, sur toutes les résolutions de recours à la force, qui sont les seuls qui peuvent faire fonctionner pour le retour, l'ONU pour le retour à la paix, pour éviter les guerres, contraintes des agresseurs, des crimes d'agression, et notamment ceux qui ont eu lieu. Ça ne peut marcher qu'avec cette résolution, cette chapitre 7, mais il faut que les opérations soient conduites de façon juste, donc sous l'autorité de l'état-major qui est prévu par la Charte des Nations Unies. Mais de toute façon, il faut que ce droit de veto des cinq grandes puissances, cette exclusivité, ce privilège soit aboli.
Merci, M. Cornu. M. Luc Michel, qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant donc cette semaine, cette première rencontre pour M. Raisi, ce premier voyage, l'importance de ce voyage, notamment également pour l'Iran ? Je vous laisse parler.
C'est la première assemblée générale qui marque la fin du nouvel ordre mondial. Et malgré les beaux discours hypocrites, en particulier Macron a été dégoûtant d'hypocrisie, eh bien, les deux blocs, en fait, sont constitués, se sont affrontés. On parle de négociations avec l'Iran et au même temps, sur les médias français, depuis 48 heures, on appelle à un soulèvement du peuple iranien contre la République islamique. Ça indique toute l'hypocrisie du monde moderne. Je crois que l'ONU a échoué. Le bilan de 77 ans d'ONU, c'est un échec total. Et je crois que l'ONU, comme la SDN, doit disparaître aujourd'hui. Je ne crois pas à la diplomatie mondiale et je ne crois pas non plus aux prédateurs occidentaux qui viennent maintenant parler de diplomatie et de dialogue. Macron, hier, a dénoncé l'impérialisme, il a dénoncé la guerre. Il est issu d'un régime qui a renversé et assassiné 52 chefs d'État et présidents depuis 1960 en Afrique, qui tente en ce moment un coup d'État en Centrafrique, qui a tenté un coup d'État contre le Mali et qui fait la guerre en Ukraine. Les armes fournies par la France à l'Ukraine actuellement, notamment les canons César, qui servent à massacrer la population civile du Donbass. Donc il n'y a pas du tout d'indulgence à avoir pour les Nations Unies. Et je crois que l'Iran, bien entendu, depuis 6 mois, a une volonté de dialogue et est en train de perdre son temps.
Merci, Monsieur Luc Michel. Donc ça, c'était le bref résumé de cette semaine concernant donc cette réunion à l'ONU. Alors j'ai envie de dire, l'Iran est un peu comme un outsider dans cette situation parce que l'Iran a essayé, par le biais d'accords internationaux, de pouvoir être en relation avec l'Occident, notamment avec cet accord nucléaire. Ils ont attendu, ils ont plus qu'attendu, ils ont essayé de ne pas prendre de décisions trop extrêmes, malgré en pensant quand même à leur nation, aux avantages de leur nation. Et finalement, vraiment ces cinq dernières années en particulier, on voit que l'Iran va dans un autre biais, se rapproche de plus en plus vers l'Asie et vers la Russie. On a vu la participation de l'Iran avec les drones en Ukraine. On a vu également cette semaine la Chine prendre place, cette fois prendre une décision concernant l'Ukraine et la Russie et s'exprimer de manière forte concernant ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Cornu ? Est-ce que l'Iran a fait son choix ? Est-ce qu'il attend quelque chose de cette assemblée ou de ces rencontres un petit peu en catimini à côté de cette assemblée à New York ou pas ?
Je crois que l'Iran doit négocier avec toutes les parties, qu'il se retourne vers l'Asie, qu'il devienne membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est très positif, puisqu'il faut que, en dehors du bloc occidental, des coalitions fortes se forment et agissent, puissent faire des propositions. Mais évidemment, l'Iran souhaite que l'accord sur le nucléaire civil soit reconfirmé, avec des garanties d'irrévocabilité en cas de changement de pouvoir aux États-Unis notamment, puisque nous en avons la mauvaise expérience. Mais ce qui est important aussi, c'est que l'Iran a officiellement renoncé à l'arme nucléaire et à tous les moyens des armes de destruction massive. Ceci est très important et ceci explique aussi les manœuvres de l'État d'Israël, les manœuvres des États-Unis pour essayer d'empêcher la reconfirmation de cet accord, parce que cet exemple de l'Iran de renoncer officiellement et fermement à toute arme de destruction massive serait un précédent pour que les pays qui n'ont pas ces armes-là puissent demander via les Nations Unies que les pays qui détiennent ces armes de destruction massive, y compris les puissances nucléaires, non seulement les cinq grandes puissances, mais aussi le Pakistan, l'Inde, Israël, qui ne veut pas le reconnaître, mais dont on sait qu'il a ces armes nucléaires, puissent aussi renoncer et démanteler tout cet arsenal de destruction massive qui a été condamné dans certains pays, mais qui reste encore à disposition. Et on voit d'ailleurs que ces jours-ci, il y a entre les puissances occidentales et la Russie un certain chantage à l'évocation de l'utilisation de ces armes. Donc je pense que l'Iran doit continuer dans ce sens-là, négocier pour obtenir la reconfirmation des accords et aussi participer ensuite à demander le démantèlement de toutes les armes nucléaires dans le monde.
Merci, M. Cornu. M. Luc Michel, déjà, premièrement, qu'est-ce que vous en pensez de ce que M. Cornu, parce que c'est un débat, donc il ne faut pas hésiter à contredire ou bien à donner son avis. Mais de l'autre côté, est-ce que l'Iran laisse la voie à cette situation-là, laisse la voie à la négociation? Mais le plus important, est-ce que l'Iran en a besoin?
Écoutez, tout d'abord, sur les armes atomiques, je pense que c'est un vœu pieux mais impuissant de demander leur démantèlement. Et les pays qui en parlent sont des pays qui disposent de l'arme atomique. La position du bon sens, c'est celle de la Corée du Nord, qui a déclaré il y a quelques jours que l'indépendance atomique faisait partie de sa politique inaliénable d'indépendance nationale. Quant à la question de l'Iran, l'Iran arrive au bout de sa patience. Les accords de Genève, c'est 2015. L'abandon des accords de Genève par les États-Unis, c'est 2017. Il y a maintenant des années qu'on abuse de la patience de l'Iran. Ça a été la même chose avec la Russie en Ukraine. L'Ukraine, depuis 2014, a abusé de la patience de la Russie. Il y a eu les fameux accords de Minsk qui n'ont débouché sur rien. Le 24 février, Vladimir Poutine a mis un terme à ce qu'on abuse de sa patience et a tranché les choses. Je crois donc que l'Iran devra déboucher sur une position logique. La position logique, c'est le rapprochement avec la Russie et avec la Chine. Et c'est d'arrêter de discuter avec ces Occidentaux qui proposent des négociations sans solution, mais qui en même temps organisent une révolution de couleur en Iran.
Merci beaucoup, Monsieur Luc Michel. Alors, il est vrai que la situation par rapport à il y a 10 ans auparavant pour l'Iran a beaucoup changé et passé d'un pays régional à une force régionale, là où des pays comme l'Irak, la Syrie et énormément d'autres pays, même l'Arabie Saoudite, s'est inclinée face à la force de prévention de l'Iran. d'un point de vue, je parle de géopolitique, je ne parle pas forcément d'un point de vue force militaire, mais il est vrai que la situation de l'Iran a bien changé depuis 10 ans, il n'est plus dans la même situation. Et j'ai l'impression que les Iraniens, en partant de New York, il y a une sorte de forme d'ironie, parce qu'il faut le rappeler, l'Iran connaît une inflation depuis maintenant, on ne compte plus le nombre d'années d'inflation. L'Europe y rentre. Il rentre de plein fouet avec cet hiver. On parle de l'hiver, mais l'inflation existe depuis aussi 10 ans. En Europe, c'est juste que ce n'était pas extrêmement perceptible. Mais là, la perception, elle est énorme. Entre cet été et cet hiver, l'inflation va faire extrêmement de mal à beaucoup de familles en Europe. Est-ce qu'il y a une forme d'ironie de la part des Iraniens? Parce qu'eux, ils ont subi ça. Et ça, à cause de sanctions, à cause de l'égoïsme des sanctions qu'ont provoqué les États-Unis et les Européens. Hein, bad flick, good cop, bad cop. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bernard Cohn? Il n'y a pas une sorte de forme d'ironie de la part de monsieur Reissi et de la part de monsieur Abdoulayan quand il s'exprime par le biais de Twitter ou officiellement face aux officiels concernant la situation de l'Europe et la position de des Iraniens?
Vous faites bien de mentionner les sanctions et l'effet désastreux qu'ils ont eu sur la situation économique en Iran. Il y a aussi des effets positifs, comme en Russie, parce que du coup, on recherche un peu plus d'indépendance technologique quand on est sous sanctions, mais le monde étant ce qu'il est, les échanges étant ce qu'ils sont, les sanctions ont un effet très grave sur l'économie et la société iranienne. Et donc, l'Iran souhaite que l'accord sur le nucléaire civil soit reconfirmé afin que, en conséquence directe, obligatoire, contractuelle, les sanctions soient levées. Et elles ont eu d'ailleurs un côté tout à fait illégal, les sanctions américaines, parce que normalement, les sanctions doivent être décidées par les Nations Unies, et il y a eu des sanctions unilatérales. Donc je pense que même si l'Iran est dans une situation difficile, il faut qu'il négocie, il faut qu'il parvienne à trouver un accord sur la reconfirmation de cet accord nucléaire civil, afin que les sanctions soient levées et que l'Iran puisse, la société puisse reprendre une vie normale, et gérer ses propres difficultés sociales, économiques, internes de façon normale comme les autres pays. Vous avez évoqué l'inflation en Europe, les risques pour cet hiver, mais on a une inflation qui est quand même de l'ordre de 6, 7, 8, 10% en Europe. Ce n'est pas si grave que l'inflation en Turquie, que l'inflation en Iran. Celle en Turquie est en grande partie due à la présence militaire d'occupation de la Turquie. Et on sait que le gouvernement turc voudrait, et la présidence turque voudrait, résoudre le problème. Il faut que tous ces problèmes soient posés pour qu'on puisse trouver des solutions à tous les conflits d'Europe. Et évidemment, celui que je n'ai pas encore cité, mais le conflit, l'occupation de terres palestiniennes, les brimades considérables, les assassinats, les bombardements de l'État israélien sur les territoires palestiniens. Et pour ne plus faire deux fois et deux mesures, il faut que ces problèmes, ces responsabilités soient prises sur un plan global, que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des États et leurs organisations puissent assumer ces guerres terribles, ces erreurs des États. Vous savez bien, vous, Iraniens, que les États-Unis et l'Angleterre ont fait un coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu, celui de Mossadegh en 1953, et il a fallu 56 ans pour que le président Obama reconnaisse ceci publiquement. Donc en fait, il faut assumer toutes ces guerres, tous ces problèmes de façon globale. Et les Nations Unies, malgré leurs défauts, sont une assemblée qui doit pouvoir faire avancer ces problèmes, mais avoir des règlements internes, notamment la Charte des Nations Unies, qui soit abolie, la Charte de San Francisco, et qui soit remplacée par un système beaucoup plus juste, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus juste.
Merci, monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, donc pour revenir sur cette ironie par rapport à la position iranienne concernant la situation de l'Europe à l'heure actuelle, j'ai envie également de mentionner le GPL qui a été négocié par les Iraniens, par des Russes, donc il va passer par l'Iran. Donc il y a forcément un problème d'énergie. Je veux dire, bien que l'inflation a été connue en Iran, il y a toujours eu au bout de 6 mois une forme de régulation de l'inflation. Là, l'Europe n'y arrive pas. Hein. L'inflation, tout le monde dit, ça ne va être que plus grave. Qu'est-ce que vous pensez de cette ironie de la part des Iraniens de voir les Européens à leur place, finalement, et notamment de cette meilleure situation entre les Russes et les Iraniens et cet accord d'échange avec notamment ce GPL qui va passer par l'Iran. Donc forcément, l'Iran va devenir un pays extrêmement important en matière de force d'énergie, s'il n'était pas déjà.
Écoutez, L'ironie de l'Iran, elle est justifiée. Nous sommes devant quatre décennies de sanctions occidentales. Les premiers ont été pris sous Reagan et Madeleine Albright contre l'Union soviétique. Ensuite, il y a eu les sanctions contre la Libye de Kadhafi. Et puis, il y a eu celles contre tous les autres. Ce sont des sanctions, la plupart du temps, qui sont illégales et qui visent à punir les peuples. Madeleine Albright disait qu'il s'agissait de ramener les États sous sanctions au Moyen-Âge. Aujourd'hui, en voulant imposer des sanctions non plus à un petit pays, mais à un État-continent comme la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale, les Occidentaux ont sapé les fondements de leur mort. Aujourd'hui, les sanctions reviennent comme un boomerang. Ils reviennent tout d'abord en Europe. Le problème des sanctions, c'est aussi celui de la guerre des hydrocarbures, puisque en plus des sanctions, ce qui va ruiner l'Europe cet hiver, c'est le prix du chauffage. Les Européens vont devoir choisir entre se chauffer, rouler en voiture, manger ou se soigner, comme c'est déjà le cas en Grande-Bretagne. Donc on comprend évidemment l'ironie des Iraniens. Mais justement, en voulant infliger des sanctions à la Russie, après l'Iran, après beaucoup de pays, les Européens et les Américains ont fait évidemment une erreur. Ils ont sapé la base du nouvel ordre mondial. Et on retiendra que c'est l'action de Poutine contre l'Ukraine qui marque la fin de ce nouvel ordre mondial et qui est une action libératrice pour les peuples. C'est pour ça que je ne crois pas plus aux Nations Unies. Vous savez que moi, je suis partisan de la géopolitique, de ce qu'on appelle des blocs continentaux, des grands espaces. Nous sommes pour l'abandon, la sortie des Nations Unies et la négociation d'accords bilatéraux, bloc continental par bloc continental.
Ok, d'accord. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu que même M. Cornu l'a réappelé, finalement, les accords ont été... les sanctions sont illégales. Donc, en fait, les institutions internationales ne fonctionnent pas vraiment, puisqu'en fait, tout se fait de manière complètement illégale. On le voit encore avec le Liban et l'entité sioniste, avec Karish. Le nombre d'exemples de choses qui, à l'heure actuelle, sont illégales d'un point de vue du droit international est énorme. Donc, en fait, aujourd'hui, parler des institutions internationales, est-ce que ça vaut encore le coup?
Poser la question à...
À M. Cornu, excusez-moi. M. Cornu, je vous en prie.
Oui, des accords bilatéraux entre continents, c'est bien, mais l'humanité, la Terre, est un ensemble continu. Notre limite, c'est l'atmosphère d'un côté, c'est le sol cultivable de l'autre. Et en fait, il faut que la justice s'étende au niveau global. Et pour qu'il y ait une justice, pour que ça fonctionne, il faut une taxe globale. Et moi, depuis longtemps, j'ai proposé qu'il y ait une taxe globale qui s'applique au monde entier, à travers toutes les frontières, sur trois éléments fondamentaux: les productions d'armes, les consommations, les productions d'énergie fossile qui menacent le climat, et les transactions financières qui sont actuellement non taxées et qui permettent en fait aux riches, aux fortunes, de s'échanger et à tous les spéculateurs de spéculer sans encourir pratiquement aucun risque, en tout cas aucune taxe. Donc cette triple taxe globale doit servir de moyen pour exercer, pour faire appliquer une justice globale. Voilà, ce sont ces deux systèmes qu'il le faut, une justice globale dans laquelle il n'y ait pas de privilèges et une classe globale pour que les gens, qu'ils soient au Soudan, en Iran, en Corée du Nord, du Sud, en Amérique ou en France ou dans Liechtenstein, puisse avoir la même taxe et qui serait un symbole en fait de la solidarité d'humanité pour appliquer la justice.
Merci Monsieur Bernard Cornu, excusez-moi, le débat finit maintenant. En effet, il y a beaucoup de choses à dire concernant les institutions internationales, la situation de l'Iran. On est dans un carrefour de décisions à l'heure actuelle, 2022-2023. Dans tous les cas, c'est ici que le débat se finit. Je vous dis donc à la prochaine fois ici au studio de Téhéran.
Les États-Unis tiendront-ils le coup jusqu'en 2024? Au début de l'année, des complications liées à la COVID-19 ont coûté la vie à Vladimir Jirinovski, l'éternel et grandiloquent leader du Parti libéral-démocrate de Russie. Il était connu non seulement pour sa rhétorique inimitable, mais aussi pour la précision étonnante de ses prédictions. Par exemple, il a prédit le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine presque jour pour jour, des mois avant le fait et à un moment où personne d'autre n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Une autre de ses prédictions se lit comme suit. Il n'y aura pas d'élection présidentielle américaine en 2024 parce qu'il n'y aura plus d'États-Unis. Jirinovski est loin d'être le seul à faire une telle prédiction. Selon des sondages récents, plus de 40% des Américains craignent qu'une nouvelle guerre civile n'éclate au cours de la prochaine décennie. Que l'on n'aille pas croire que les personnes interrogées ont effectué une analyse indépendante sur la base de laquelle ils ont pu calculer la probabilité d'une guerre civile. Aujourd'hui, la grande majorité des Américains ont été conditionnés à percevoir la réalité comme une mosaïque composée de courts extraits de journaux télévisés, d'extraits sonores, de scènes dont la longueur ne dépasse pas celle de deux publicités télévisées et de récits miniatures qui présentent tel ou tel objet imaginaire sous un jour positif ou négatif. Ils pensent qu'une guerre civile est probable parce que c'est ce qu'on leur a dit à travers les médias de masse ou les médias sociaux, invisiblement mais implacablement chaperonnés. L'oligarchie qui contrôle tout ce qui précède joue avec deux business plans alternatifs. Le plan A, plus rentable et moins risqué, ne prévoit pas de guerre civile, tandis que le plan B, risqué mais toujours rentable, en prévoit une. Dans les deux cas, les profits proviennent de la confiscation des richesses de la population, avec le plan A, une moindre partie de ces richesses est détruite, d'où des profits plus importants. Mais le plan A exige de s'assurer de l'obéissance, de la docilité totale d'une population de plus en plus désemparée et rétive. Pour paraphraser Klaus Schwab, ils doivent s'accommoder de ne rien avoir et faire semblant d'être heureux à condition d'être autorisés à rester à l'intérieur et à être nourris. Pour maintenir la population américaine à distance, l'oligarchie doit l'approvisionner en grande quantité de malbouffe, d'alcool, de drogue et de pornographie. Et malgré toute la propagande incitant les gens à se trier dans un arc-en-ciel de genres, la plupart stériles, certaines femmes peuvent encore réussir à tomber enceinte, refuser d'avorter et donner effectivement naissance à des enfants, empêchant ainsi la population de diminuer aussi vite que les ressources qui s'amenuisent. Écoutez, des femmes tombent enceintes chaque jour en Amérique et c'est un vrai problème, a déclaré la vice-présidente Kamala Harris. Malgré le terme politiquement incorrect de femmes, c'est-à-dire d'hommes engrossés, son message est clair comme de l'eau de roche. Ces concitoyens américains devraient être stérilisés comme les animaux domestiques, qui est l'image qu'elle a d'eux. Vos animaux domestiques ne sont pas stérilisés, n'est-ce pas? Ils sont transgenres. Cela ne semble-t-il pas beaucoup plus à la mode? Mais que se passera-t-il si les pipelines de la malbouffe, de l'alcool, de la drogue et de la pornographie se tarissent plus vite que la population ne peut être réduite à l'aide de la propagande LGBT et des avortements gratuits et abondants? Il serait alors temps de passer au plan B où les Américains se tireraient dessus en utilisant toutes les armes légères qu'ils possèdent. Une combinaison des plans A et B est aussi théoriquement possible, où les États bleus démocrates sont maintenus dans la paix et la crainte des États rouges républicains, où la guerre civile fait rage et où les cadavres jonchent les routes, tandis que de leur côté, les habitants des États rouges ont une peur bleue de s'aventurer en territoire bleu, de peur de voir leurs enfants castrés et leurs armes sacrées confisquées. Mais un tel équilibre précaire peut être difficile à atteindre et un scénario bien plus probable est celui d'un désordre stable où l'oligarchie rassemble ses ressources humaines les plus précieuses dans quelques enclaves bien défendues tout en laissant le reste de la population succomber à des luttes intestines. Mais ni le plan A ni le plan B ne peuvent résoudre un tel problème majeur qui se profile à l'horizon. Comment permettre au gouvernement fédéral américain de se décharger de ses responsabilités? Les principales sont la sécurité sociale, les allocations familiales, Medicare et la défense. Environ la moitié des ménages américains reçoivent une aide financière significative du gouvernement fédéral, tandis que la défense est le plus grand programme d'aide sociale que le monde ait jamais connu. La dette fédérale américaine est déjà astronomique et s'élève à environ la moitié du PIB mondial. Si elle était un objet physique, elle serait visible à l'œil nu depuis l'espace. Elle continue de croître à pas de géant, le déficit budgétaire de 2022 devant dépasser 1 000 milliards de dollars contre environ 2 000 milliards de dollars les deux années précédentes, mais il s'agit toujours d'un montant astronomique. Personne ne sait combien de temps cette farce financière peut durer, mais avec toutes les grandes nations créancières qui se sont lancées dans une course à la vente de leurs avoirs en dette américaine, le message est clairement sur le mur. Comment se débarrasser du double fardeau des créanciers étrangers et des dépendants nationaux? Une guerre civile qui mettra à sac Washington DC et démantèlerait le gouvernement fédéral serait la solution la plus efficace. Les structures politiques locales restantes, quelles qu'elles soient, rejetteraient la dette fédérale comme étant onéreuse et totalement absurde et refuseraient de prendre en charge les dépenses de défense et les programmes d'aide sociale fédéraux. Le problème serait résolu. Joe Biden semble déjà penser dans ce sens. Dans un récent discours à Philadelphie, il a déclaré « Pour ces braves Américains de droite, si vous voulez vous battre contre le pays, il vous faut un F-15. Vous avez besoin d'un peu plus qu'un fusil », a-t-il ajouté. A-t-il, avec son fils en terre, quelques F-15 qu'il aimerait vendre à ces braves Américains de droite? Notez qu'il a mentionné les F-15 et non les F-35. Il aimerait fournir des avions anciens mais efficaces, prêts au combat pour effectuer des bombardements sur la capitale américaine, et non des engins dorés truffés de bugs et jamais prêts au combat comme les F-35. Mais avant que Washington ne soit rayé de la carte politique, un pillage important doit avoir lieu via un épisode majeur de corruption politique. Qui est le terrain de jeu personnel de Joe et Hunter Biden depuis des années, a été utilisé comme principale plaque tournante du blanchiment d'argent. Sur les plus de 10 milliards de dollars que l'administration Biden a dépensés pour l'Ukraine jusqu'à présent, très peu est effectivement parvenu à l'Ukraine. Le reste a été utilisé pour remplir des poches, une caisse de campagne politique ou autre aux États-Unis. Parmi les armes qui sont parvenues en Ukraine, au moins un tiers a été vendu sur le marché noir international par la junte de Kiev. Même les armes qui ont atteint les lignes de front sont rapidement revendues par des mercenaires étrangers expédiés dans des régions inconnues. Les morceaux qui parviennent aux troupes sont détruits ou pris comme trophées par les Russes qui avancent sans relâche, bien que très lentement et prudemment. Au cours de l'opération spéciale, les Russes ont amassé un véritable trésor de systèmes d'armes extrêmement coûteux mais plutôt inefficaces, trop compliqués et assez fragiles, qui ne peuvent être entretenus sur le terrain et qui ont été abandonnés par les Ukrainiens battant en retraite. Une autre source importante de revenus supplémentaires provient de la vente d'une grande partie de la réserve stratégique de pétrole à la Chine et à d'autres nations étrangères. Sur les 700 millions de barils, 300 millions ont été vendus et la réserve stratégique de pétrole est maintenant à son niveau le plus bas depuis 40 ans. Il s'agit d'un résultat intéressant étant donné que la manne de pétrole de schiste a atteint son apogée en 2019 et que le forage étant désormais concentré sur une seule parcelle du bassin permien et compte tenu des taux d'épuisement très élevés, elle devrait être réduite à un filet d'eau en seulement 2 ou 3 ans. Bien que les vérificateurs de faits des médias de fausses nouvelles aient crié au scandale, des entités associées à Hunter Biden auraient été impliquées. Bien sûr, nous ne connaîtrons jamais tous les détails car Hunter Biden est magique, ayant été placé bien au-dessous de la loi. S'il s'en sort avec la pédophilie, le trafic de drogue, le transport de prostituées au-delà des frontières de l'État et d'autres crimes de ce genre, qu'est-ce qu'un petit ou un gros crime en col blanc entre collègues truands ?